9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. On va débuter cette émission avec la politologue Chloé Morin, pour qui on a les politiques qu'on mérite. Elle va nous expliquer pourquoi. Je recevrai ensuite Michel-Yves Bolloré, l'un des auteurs du best-seller « Dieu, la science, l'épreuve ». Croire en Dieu, créateur de l'univers, n'a plus rien d'irrationnel. D'après lui, c'est même devenu logique. Et l'on terminera l'émission avec Danielle Thompson, la présidente de la 47e cérémonie des Césars, qui aura lieu vendredi et sera retransmise en direct sur Canal+ et sur Europe 1 à partir de 20h. C'est même moi qui vais l'animer sur Europe 1.
Europe 1.
Chloé Morin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, vous publiez « On a les politiques qu'on mérite » chez Fayard. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Mais qu'on a souvent, on leur renvoie la responsabilité de tout ce qui nous arrive et des échecs collectifs que l'on vit depuis des années, mais qu'au fond, il y a une responsabilité dans tout ça qui est partagée et qu'il est assez facile de dire que tout est de la faute des politiques, mais à la fin, c'est quand même nous qui les élisons, y compris lorsqu'ils sont en échec ou y compris lorsqu'ils enfreignent la loi.
Un bon exemple qui ne figure pas dans votre livre, mais qui est dans l'actualité, c'est celui de Boris Johnson, un article de The Economist, traduit dans le numéro de cette semaine de Courrier International, explique qu'on ne peut pas reprocher au Premier ministre britannique d'avoir menti sur sa participation à des garden parties pendant le confinement, étant donné qu'il a toujours menti. Sa carrière politique est jalonnée de mensonges, qu'il a reconnu son problème d'ailleurs, et que cela n'a jamais empêché les électeurs de voter pour lui.
Mais c'est très vrai. D'autant plus que si on regarde l'essentiel de ses promesses qui étaient de mener à bien le Brexit et de remettre de l'argent public dans l'hôpital public, il les a tenus, contrairement à certains de ses prédécesseurs qui ont pu trahir certaines de leurs promesses. Lui n'a jamais caché qu'il était un menteur et quelque part il est donc sincère dans son insincérité. Alors, en plus, il avait gagné, il me semble, les élections en 2019 avec un score inégalé depuis Margaret Thatcher. Donc c'est bien la preuve qu'il y avait un soutien populaire derrière. Et de ce point de vue, oui, les Britanniques ont ce qu'ils méritent.
Ont ce qu'ils méritent et ils ne devraient pas se plaindre, en tout cas pas le lui reprocher.
C'est
ce qui était dit dans l'article. Au fond, c'était peut-être le plus honnête des hommes politiques actuels en Grande-Bretagne. Votre livre à vous commence par Patrick Balkany, réélu triomphalement à Levallois en 2001, après une première condamnation pour avoir rémunéré aux frais du contribuable trois personnes qui servaient à son domicile.
Ce que je raconte, c'est qu'un journaliste, le lendemain de sa réélection, va devant la mairie de Levallois pour essayer d'interroger les électeurs, savoir comment ils réagissent. Et il tombe sur un électeur qui lui dit « Mais moi, je suis de gauche, je suis scandalisé par leur attitude. Ils ont été condamnés. Pourquoi est-ce qu'ils reviennent ?» Et donc le journaliste, qui est Jean-François Aquili, lui dit « Mais donc vous avez voté pour leurs opposants ?» Et l'électeur dit « Ah non, non, moi j'ai voté pour les Balkany parce qu'ils font ils font bien le travail. » Et au fond, ce paradoxe est à la base du livre et est très intéressant parce que si on n'interroge pas nos propres contradictions et notre propre responsabilité dans le personnel politique que l'on a, on reste dans une forme d'hypocrisie et on n'arrive pas à aller au fond de la crise de représentation qui est actuelle.
Pour vous, les électeurs, donc vous, moi, nous tous, on a notre responsabilité dans ce que vous appelez le délabrement progressif du monde politique, c'est-à-dire incompétence, corruption, carriérisme, enfin tout ce qu'on leur reproche au fond.
Oui, bien sûr, on y contribue de multiples manières. Bon, d'une part, évidemment, on élit nos représentants. Donc, lorsqu'ils sont incompétents, inefficaces ou lorsqu'ils enfreignent la loi, quelque part, il ne tient qu'à nous de les sanctionner. Mais aussi, on a, par exemple, on fait pression, l'opinion publique fait pression depuis de nombreuses années maintenant pour baisser les rémunérations des élus. Elles ont été baissées considérablement au niveau national depuis le quinquennat de François Hollande. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire, lorsqu'on compare aux rémunérations du privé, on ne peut pas dire que les élus soient outrageusement payés, même si évidemment les niveaux de salaire du point de vue du SMICAR, ça restera toujours élevé, mais ce n'est pas énorme. Et lorsqu'on regarde les élus locaux, ça n'est pas énorme non plus. Et donc, cette espèce de pression que l'on exerce pour baisser les rémunérations, forcément, ça va finir par décourager des vocations. Lorsque vous gagnez bien votre vie dans le privé et que vous avez envie de servir la collectivité pendant ne serait-ce qu'un mandat, si ça implique de diviser votre revenu par 2, 3 ou 4, vous allez sans doute plus réfléchir que si la rémunération sont plus élevées. Donc ça, c'est une des manières dont on contribue à décourager des talents. Une autre manière, c'est la pression que l'on exerce sur la vie privée. C'est-à-dire qu'il y ait de la transparence sur l'emploi des fonds publics, sur la manière dont les élus exercent leur mandat, c'est absolument normal. Ils doivent rendre des comptes. En revanche, qu'on soit sans arrêt en train de commenter là où ils partent en vacances, la marque de leur voiture, où est-ce qu'ils mettent leurs enfants à l'école, ce qui est aujourd'hui le cas de la plupart des élus que j'ai interrogés pour cet ouvrage, mais forcément, ça contribue à leur rendre la vie un peu plus difficile.
Impossible, même parfois. Vous dites qu'en voulant assainir une vie publique jadis opaque, il faut bien le reconnaître, oui, bien sûr, avait au fond imposé la transparence, et peut-être qu'on a eu tort.
Oui, c'est-à-dire que je pense que la transparence est saine en matière de finances publiques, en matière de... y compris de patrimoine, même si le fait de dévoiler les patrimoines des élus, ça a un effet qui est que, on connaît certains ministres aujourd'hui, je prends l'exemple d'Éric Dupond-Moretti, dont on a passé des heures et des heures à commenter le nombre de voitures et de propriétés. Bon, mais la transparence sur le patrimoine, ça permet de vérifier que les uns et les autres ne s'enrichissent pas en cours de mandat, donc c'est sain. Mais en revanche, nous n'avons pas besoin, pour autant, de tout savoir sur les élus. Et peut-être même plus, on exige une forme de transparence sur la vie privée, mais on n'est pas assez regardant sur certains, par exemple, sur les débats au Parlement. On s'y intéresse assez peu sur qui vote quoi des lois. Et on ferait mieux d'être plus vigilant là-dessus et moins vigilant sur ce qui relève finalement de leur vie privée.
On fait une pause. On se retrouve juste après, Chloé Morin.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Et Chloé Morin qui publie « On a les politiques qu'on mérite » chez Fayard. On leur a beaucoup reproché aux politiques leur carriérisme. Et au fond, en voulant des politiques 100% à leur tâche, on a voulu et on a applaudi au non-cumul des mandats. Comme ça, on se disait ils ne feront plus carrière là.
Oui, et d'ailleurs j'ai fait partie de ceux qui pensaient qu'au fond on ne peut pas cumuler différentes fonctions, que quand on fait deux métiers, il y en a un forcément qu'on fait mal. Néanmoins, avec le recul, maintenant que la loi est rentrée en application, je pense qu'on est allé trop loin dans l'application des règles de non-cumul. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde un certain nombre d'élus nationaux, donc notamment de députés, on se rend compte qu'on a des députés qui sont moins connectés au terrain. On l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes, ils ont été, dans la majorité, assez peu nombreux à voir venir cette crise-là. Donc, je pense que quand on est élu de la nation, on a besoin aussi d'avoir cette connexion au terrain et que sans doute, il faudrait trouver un autre équilibre dans la nécessité à la fois d'avoir des élus dédiés à leurs tâches et en même temps, d'avoir des élus qui soient capables d'être à la fois nationaux et locaux.
Mais c'était aussi une façon de se débarrasser des professionnels de la politique qui cumulaient les fonctions et les rémunérations d'ailleurs, et ça nous posait problème. Résultat, on regrette les grandes figures d'autrefois, on reproche aux nouveaux politiques d'aujourd'hui d'être des amateurs.
Oui, bien sûr. Je pense qu'on a contribué à... Alors, l'avantage, c'est qu'on a renouvelé quand même considérablement l'Assemblée nationale en termes de diversité des profils, mais aussi en termes d'égalité femmes-hommes. L'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'être politique, ça ne s'improvise pas et que, ne serait-ce que pour voter la loi, il faut maîtriser un certain nombre de codes, de compétences. Il n'y a pas d'école d'élus, donc chacun apprend sur le tas. Et qu'avoir un trop grand nombre de novices en politique, ça a aussi ses inconvénients.
Au fond, vous nous dites qu'en voulant décourager les talents, comme vous dites, on a encouragé, sans le vouloir, la banalité, l'absence d'ambition. Tout ça, c'est devenu des médailles.
Oui, on a, on a d'un côté des gens qui sont de plus en plus conformistes parce que soumis justement à cette pression que l'on exerce sur eux. Et donc, ils tweetent, mais c'est jamais plus un mot plus haut que l'autre. Ils maîtrisent absolument leur communication et ils essayent de ne pas faire de vagues. Donc, c'est vrai qu'on regrette presque les personnages qui pouvaient piquer des colères, comme il y a encore pas si longtemps. Et d'un autre côté, la vie politique est devenue plus difficile. Et donc, les profils qui survivent et qui n'abandonnent pas à la fin d'un mandat, eh bien, ce sont des profils peut-être de gens qui ont une force qu'ils tirent dans l'amour d'eux-mêmes et pas dans l'amour des autres. Et donc des gens qui sont des voilà, un peu égotiques, narcissiques, etc.
Et quand ils nous montrent quelque chose qui fait partie de leur personnalité, s'ils aiment les chats, s'ils font du vélo le matin, on dit que c'est forcément de la com.
Oui, on dit que c'est forcément de la com et on leur reproche. C'est vrai que on reproche aux responsables politiques de s'afficher dans Paris Match avec leur famille. On reproche à Marine Le Pen, par exemple, de s'afficher avec ses chats sur Instagram. Au fond, c'est un cercle vicieux, mais c'est un cercle vicieux qui n'est pas nourri uniquement par les politiques. C'est-à-dire que s'ils font ça, c'est aussi parce que l'électeur va puiser là-dedans des éléments pour juger le politique et pour s'identifier à lui. Si ça ne fonctionnait pas, jamais on aurait de confidences personnelles ou d'étalage de la vie privée sur la place publique. Donc, on peut reprocher aux politiques de faire ça, mais il faut aussi soi-même de ne pas baser son jugement politique sur ces seuls critères.
Et en dépit du fait qu'ils sont banals, qu'ils ne manifestent pas trop d'ambition, qu'ils aiment les chats ou qu'ils font du vélo, ça ne résout toujours pas le problème, puisque une fois au pouvoir, on leur reproche d'être déconnectés du réel. Quoi qu'il arrive, ils sont déconnectés du réel.
Alors, il y a une réalité qui existe, qui est que lorsque vous êtes ministre ou lorsque vous êtes Premier ministre ou Président, vous êtes dans une machine qui enferme et qui coupe de la réalité. C'est difficile, je pense, structurellement, de rester connecté. C'est un effort qu'il faut produire lorsque vous êtes ministre pour rester au contact des réalités. Sinon, vous êtes dans une espèce de réalité parallèle, c'est-à-dire que quelqu'un vous fait votre agenda, quelqu'un vous fait vos courses parce que vous n'allez pas passer votre temps de ministre à faire vos courses, vu que vous travaillez énormément. Et vous voyez, très vite, vous êtes coupé de tout. Donc ça, c'est vrai, le pouvoir peut couper des réalités. Mais au fond, l'immense majorité des élus ne sont pas coupés des réalités. Là encore, c'est une toute petite partie de la population totale qui peut-être s'est déconnectée. Mais bon, l'immense majorité des élus aujourd'hui, ce sont des maires, des adjoints aux maires, des conseillers départementaux ou régionaux qui sont en contact avec le terrain. Et je pense qu'ils ne sont pas plus déconnectés que vous et moi.
Souvent, s'ils sont déconnectés, c'est parce que c'est un métier de tous les instants. En plus, ils sacrifient tout à leur engagement, à leur fonction. Et c'est ce qui fait qu'on doute de leur sincérité, d'ailleurs, parce qu'on dit que c'est parce qu'ils ont des égos surdimensionnés.
Oui, disons que plus l'on rend la politique difficile à exercer, plus on va avoir ce type de profil et de gens qui n'ont pas juste envie d'aider l'autre, mais ont aussi d'autres motivations. Parce que pour tenir, il faut arriver à tenir le choc. Dans le livre, je donne quelques exemples des pires expériences que les uns et les autres, et notamment certains candidats à la présidentielle, ont connues dans leur vie politique. Et c'est vrai que ce sont des expériences parfois extrêmement, extrêmement rudes. Donc, pour tenir le choc, il faut être quelqu'un d'un petit peu extraordinaire.
Pourquoi est-ce qu'on déteste à ce point les politiques ?
Je pense qu'on les déteste déjà parce qu'on est dans une époque où collectivement, on a un sentiment de déclassement, d'insécurisation économique, culturelle et physique qui fait qu'on cherche des responsables à nos problèmes. Et que la facilité, c'est de trouver des boucs émissaires. Et parmi les boucs émissaires courant de notre société, il peut y avoir les immigrés, il peut y avoir les riches, et il y a notamment les politiques qui sont, à mon avis, aujourd'hui, le bouc émissaire préféré de la société.
Merci Chloé Morin.
Merci.
Je renvoie à votre livre. On a les politiques qu'on mérite, qui est paru chez Fayard. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Michel-Yves Bolloré, l'auteur de Dieu, la science, l'épreuve.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Michel-Yves Bolloré, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes l'auteur avec Olivier Benassi du best-seller de ce début d'année, Dieu, la science, l'épreuve, qui s'est déjà vendu à 125 000 exemplaires. Vous êtes tous les deux ingénieurs et c'est en ingénieur que vous démontrez dans ce livre qu'en l'état actuel de nos connaissances scientifiques, croire en Dieu n'a rien d'irrationnel, ce serait même plutôt le contraire. C'est conforme à la raison, à la logique, ça repose même sur une méthode.
Alors écoutez, oui, c'est vrai que le XXe siècle est un siècle qui est tout à fait étonnant, parce qu'après 3-4 siècles depuis la Renaissance, où de très nombreuses découvertes avaient pu faire douter, sinon de l'existence de Dieu, au moins de la nécessité qu'il soit existant. Et je pense naturellement, bien sûr, à Copernic, à Galilée, à Newton, Laplace, puis ensuite à Lamarck, à Darwin, etc. Les gens s'étaient dit, bon, voilà, il y a des explications naturelles pour tout. Donc finalement, s'il y a des lois naturelles, des explications naturelles, et bien au fond, finalement, Dieu n'est pas nécessaire pour expliquer le monde. Et donc, s'il n'est pas nécessaire, au fond, c'est que probablement, il n'existe pas. Et donc, après ces quatre siècles, et bien en 1900, on se trouve dans une époque où la plupart des intellectuels et des savants sont athées, ce qui conduira d'ailleurs à des mouvements politiques. C'est une des raisons de tous ces mouvements politiques et de ces révolutions du début du XXe siècle, notamment en 1917 en Russie, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, en Allemagne, en Espagne, au Mexique et même en France. Donc voilà ce mouvement de quatre siècles. Et puis en fait, il s'est passé au XXe siècle quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est que les découvertes du XXe siècle ont été exactement à contresens, si vous voulez, de ces quatre siècles précédents. Et ces quatre siècles ont remis sur la table la question de la nécessité d'un Dieu créateur pour expliquer l'existence du monde. Voilà, donc notre livre ne parle ni de foi, ni de religion. C'est très important, je pense, de le dire. Nous ne cherchons qu'à scruter l'univers pour savoir si notre univers, comme une grande horloge magnifique, est sortie du main du hasard ou si elle est sortie des mains d'un Dieu créateur.
Alors c'est vrai que la science a révolutionné notre conception de l'univers, à commencer par le Big Bang, dont la théorie a été confirmée par Robert Wilson, qui a reçu pour ça le prix Nobel de physique. Il a accepté d'ailleurs de faire la préface de votre livre. Il raconte qu'au début de sa carrière, il pensait, comme tous les scientifiques à l'époque, que l'univers était éternel, qu'il avait toujours existé. Mais sa découverte en 1964 du fond diffus cosmologique a fait voler en éclats une telle croyance. S'il n'y a eu un Big Bang, cela signifie que l'univers n'a pas toujours existé et qu'il y a eu un commencement.
Voilà, bien, c'est ça le problème. Et alors, c'est très intéressant parce que Robert Wilson, donc, qui est, comme vous l'avez dit, qui est un prix Nobel, mais pas un prix Nobel ordinaire, c'est un des plus un très, très important cosmologiste. C'est lui qui a prouvé que le Big Bang était une réalité en 1963. Il a été prix Nobel en 1978. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est d'abord, il n'est pas croyant, ce n'est pas un athée dur, si on peut dire, il est agnostique, il ne sait pas très bien, il ne sait pas. Et il le dit lui-même, il nous a fait une préface qui, je pense, est absolument magnifique pour un agnostique. Mais il dit dans cette préface, dans les premières lignes, si cette théorie du Big Bang est confirmée, bon, aujourd'hui, on sait qu'elle l'est, eh bien, si cette théorie du Big Bang est confirmée, on ne peut pas échapper à la question de la création. Voilà, je pense que ça, c'est des mots très justes, parce qu'il ne s'agit pas de donner une réponse, forcément, mais il s'agit de dire qu'en tout cas, on est face à un problème. On ne peut pas échapper à la question de la création. Voilà.
S'il y a un commencement, s'il y a création.
Voilà, ben voilà. Et alors, c'est ça le problème. Donc, alors évidemment, après, on peut beaucoup discuter de ce que c'est un commencement. Ce qu'on peut dire simplement aujourd'hui, c'est que le Big Bang, ou un autre Big Bang avant celui-là, parce qu'il peut y en avoir eu plusieurs, ça ressemble bigrement à un commencement. Voilà, on ne dit pas que c'est absolu commencement, il n'y a pas une preuve absolument scientifique de ça, mais on peut dire aujourd'hui que c'est l'explication la plus plausible. Oui, ça ressemble à un commencement.
Sachant qu'on sait aussi qu'il n'y a pas seulement eu un commencement à l'univers, il y a aussi une fin. Hein. C'est l'idée de la mort thermique de l'univers qui découle de la seconde loi de la thermodynamique. La mort thermique, c'est que la température de l'univers tout entier se rapproche du zéro absolu. On sait que ça arrivera.
Oui, alors ça, c'est très intéressant, bien entendu, parce que c'est très antérieur au Big Bang, c'est très antérieur à Robert Wilson, c'est très antérieur.
Mais ça préparait l'idée du Big Bang.
Ça préparait, parce qu'en fait, le début, quand il y a une fin, il y a toujours un début. Donc en fait, la thermodynamique est un mot compliqué, et il ne faut pas que ça fasse peur aux auditeurs ou aux lecteurs, en fait, c'est une question simple. C'est la découverte, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, c'est la découverte, la démonstration scientifique que le monde s'use. Voilà. Et avant, on ne pensait pas que le monde s'usait. Tout le monde pensait que le monde était éternel, y compris Einstein, quand il est prix Nobel en 1920. Einstein est absolument certain que le monde, l'univers est éternel. Et donc, en fait, la thermodynamique est la première coup de hache dans cette idée que que l'univers est éternel, parce qu'il dit le monde s'use. Alors, le monde s'use, il est comme une grande bougie, il se consume. Alors, par exemple, pour être pratique pour nous, notre Soleil, il a 4 milliards d'années. Mais dans 5 milliards d'années, il sera complètement éteint. Il sera comme un vieux bout de bois tout noir. Il sera entièrement éteint et donc tout le système solaire sera fini. Et puis après le Soleil, ça prendra beaucoup d'autres milliards d'années, mais ça n'a strictement aucune importance au point de vue du raisonnement, parce que c'est pareil, eh bien, toutes les étoiles de l'univers, vont s'éteindre les unes après les autres. Et donc l'univers finira dans ce qu'on appelle la mort thermique, c'est-à-dire il finira par être froid, noir et très très peu dense.
Voilà, et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, bon, bah, s'il y a une fin, il y a un commencement.
Oui, parce
et on a élaboré
voilà,
la théorie
fait, d'une façon générale, tout ce qui a une fin, un commencement, il suffit de se mettre devant une cheminée pour faire une analogie simple et intéressante. Si on se met devant une cheminée, on voit que les bûches se consument et on peut en tirer deux conclusions. C'est que dans un certain nombre d'heures, le feu sera complètement éteint, mais on peut en tirer une autre conclusion qui est au moins aussi intéressante. C'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu, qui a mis des bûches et qui l'a allumé. Parce que s'il n'avait jamais été allumé, il serait éteint depuis toujours.
On fait une pause, Michel-Yves Bolloré. On se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Michel-Yves Bolloré, le co-auteur avec Olivier Bonassis de ce best-seller de début d'année, Dieu, la science, l'épreuve. Dans votre livre, vous évoquez évidemment la notion d'ajustement fin de l'univers, qui est à la base en cosmologie du principe anthropique proposé par l'astrophysicien Brandon Carter en 1974. Alors, pour faire simple, moi-même, je ne suis pas un physicien, je n'ai pas tout compris, mais je crois avoir compris que ça implique la présence d'un observateur. Un observateur est nécessaire à la constatation, mais aussi à l'existence d'un univers observable. Et ça répond évidemment à la question des croyants, Dieu en tant qu'extérieur à l'univers.
Alors effectivement, la question du réglage fin est un des autres piliers des grandes questions qui posent problème aujourd'hui, qui posent problème à tout le monde, qui posent problème bien sûr aux matérialistes. C'est qu'on a découvert... Et je dois dire que les scientifiques ont trouvé ça problématique, parce que les scientifiques ont découvert des tas de trucs qu'ils ne voulaient pas découvrir eux-mêmes. Einstein n'avait pas envie de découvrir que l'univers était en expansion. Ça lui posait un problème à lui terrible, parce qu'il comprenait très bien qu'une expansion de l'univers, ça signifiait un début et une fin. Et donc, comme lui n'était pas religieux, il s'écriait avec des cris d'orfraie « Ah non, pas ça, c'est pas possible, c'est de la physique de curé. » Il l'a vraiment dit, c'est dans le livre avec la citation et la référence. Et puis il a dit à quelqu'un d'autre une autre fois « Ah non, c'est pas possible, ça ressemble trop à la Bible. » Voilà. Donc, et lui, comme il était très contre la Bible, c'était vraiment quelque chose qui le dérangeait beaucoup. Donc c'est intéressant de voir que les scientifiques ont découvert des trucs qu'ils ne voulaient pas découvrir. Alors donc, après cette question de l'expansion de l'univers qui signifie, bien sûr, qui pose le problème du début et de la fin, il y a aussi cette question du réglage fin sur lequel il faut bien insister aujourd'hui. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il existe un réglage fin. Personne ne le conteste, même bien entendu les savants matérialistes ou athées. Effectivement, notre univers repose sur 20 ou 30 nombres extrêmement finement ajustés. On comprend la vitesse de la lumière, la masse ou la charge des particules, la constante gravitationnelle, la vitesse d'expansion de l'univers. Prenons cette dernière, la vitesse d'expansion de l'univers. Nous connaissons, c'est formidable d'ailleurs quand on y pense, nous connaissons la vitesse de l'expansion de l'univers au tout début. Eh bien, on connaît les 15 premières décimales. On a des ordinateurs très puissants. On s'est demandé qu'est-ce qui se passerait si la 15e décimale... Vous vous rendez compte ce que c'est que la 15e décimale? Si la 15e décimale de la vitesse de l'expansion de l'univers était juste un plus faible ou un plus fort, eh bien, dans les deux cas, l'univers n'existerait plus. Bon, c'est quand même un problème majeur. Bon. Qu'est-ce que disent les matérialistes? Parce qu'ils ont un problème, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bah, écoutez, voilà, c'est vrai, mais c'est juste un coup de bol. En fait, il y a des milliards d'univers. C'est ce qu'on appelle les multivers. Il y a des milliards d'univers, et puis nous, on est dans le bon, et puis les autres, ils ont avorté, ils ont disparu, ça n'a pas marché, il n'y a pas eu de vie, etc. etc. Mais il y a des centaines de milliards d'univers. Bon, c'est une explication, théoriquement, elle n'est pas impossible. Bon, elle n'est pas très crédible, à mon avis. Voilà, il est plus simple de penser qu'effectivement, il y a un Dieu créateur qui a réglé tous ses compteurs.
Donc, au fond, l'apparition de la vie sur Terre a dépendu de tellement de facteurs, hein, si je vous ai bien compris. Il a donc fallu que le Big Bang soit réglé de façon ultra précise dans le temps et dans l'espace. La position de la Terre, du Soleil, de Jupiter, de Saturne, de la Lune, la distance moyenne entre les étoiles et notre galaxie, la quantité de matière dans l'univers, c'est-à-dire les millions de galaxies qui existent à côté de la nôtre. Tout ça, il fallait que ce soit réglé au millimètre.
Oui, et quand vous dites au millimètre, c'est pas au millimètre, c'est au milliardième de millimètre. Et puisque vous faites allusion de l'apparition de la vie. Je pense que c'est la plus tardive et la plus extraordinaire des découvertes qui ont été faites par les savants. C'est la complexité extraordinaire de la moindre cellule vivante. Aujourd'hui, on sait qu'une cellule vivante, c'est un truc qui est extrêmement complexe, avec l'ADN, l'ARN, les ribosomes, des équivalents d'ordinateurs, de langage d'ordinateur qui échangent, etc. Ce qui est très, très intéressant, c'est que Darwin avait dit que la vie était apparue dans une soupe primitive. Il avait dit ça vers les années 1850. Et il avait dit, écoutez, prenez une soupe primitive, mettez-la au pied d'un volcan, avec du soufre, des éclairs de tonnerre, de la pluie et du vent, et avec plein d'éléments dedans, et puis voilà, et puis en touillant tout ça, ça va, la vie va apparaître toute seule. Et alors on a cru ça très longtemps, et même on a fait des tas d'expériences en Amérique. Il y a eu énormément de laboratoires dans les années 1950, 1970, qui ont fait des apparitions, des expériences pour essayer de créer des soupes primitives et d'essayer de voir si le vivant allait apparaître. Et puis alors finalement, on a découvert tout ça, cette complexité du vivant, et tous les gens ont arrêté d'essayer de touiller des soupes primitives pour essayer de faire apparaître la vie, parce que plus personne ne croit qu'on y arrivera comme
ça. La biologie, de ce côté-là, nous a renseigné énormément, et vous en parlez évidemment dans votre livre. Le fait que l'univers est intelligible, que les mathématiques peuvent le décrire, ça va dans votre sens. C'est que l'univers a été créé par une intelligence.
Alors c'est très intéressant, parce que ça a été, en fait, finalement, ça a été dans les deux sens. C'est-à-dire que dans un premier temps, je me place par exemple à l'époque de Newton ou de Laplace, les gens étaient surpris que l'univers soit descriptible par des formules mathématiques. Et ils disaient, ben voilà, alors maintenant, s'il est descriptible par des équations mathématiques relativement simples, finalement, bon, ben c'est qu'on n'a pas besoin de Dieu pour expliquer l'univers. Si on n'a pas besoin de lui, ben c'est qu'il n'existe pas. Bon. Donc dans un premier temps, on a trouvé que c'était plutôt pour dire que finalement, Dieu n'existe pas. Et puis après, on a trouvé que finalement, l'univers se décrivait il était extraordinairement complexe, et en même temps que les mathématiques, que tout était écrit en langage mathématique, et beaucoup de savants agnostiques ou athées sont extrêmement frappés par le fait que l'univers soit écrit en langage mathématique. Ça frappe beaucoup les gens, oui.
Michel-Yves Bolloré, ce qui m'a étonné dans votre titre, c'est le mot « preuve ». Alors, je sais que vous êtes tous les deux ingénieurs avec Olivier Bonassi, mais au fond, le mot « preuve » est à la fois dans le titre et il revient à plusieurs reprises dans l'ouvrage concernant l'existence de Dieu. Or, la foi, me semble-t-il, c'est ce qui se passe de preuve. Elle n'a pas besoin de preuve, justement, la foi. Et si Dieu voulait nous donner des preuves, il nous en donnerait sans problème. S'il ne le fait pas, c'est que son existence ne dépend pas des preuves.
Alors, vous me posez deux questions différentes. La première, c'est sur la notion de preuve. C'est très important parce qu'il y a eu beaucoup de critiques sur cette question de l'existence de preuves. Et il faut bien comprendre que les preuves, ce ne sont pas des démonstrations mathématiques. Il y a, par exemple, le théorème de Pythagore sur un triangle rectangle, l'hypoténuse et le carré de l'hypoténuse, c'est la somme des carrés des côtés. Ça, c'est une démonstration mathématique. Bon. La preuve, au sens du dictionnaire français, ce sont l'ensemble des arguments qui milite en faveur d'une thèse. C'est ça, une preuve. Voilà. Eh bien, notre livre n'apporte pas une démonstration mathématique de l'existence de Dieu. Il apporte les preuves au sens du dictionnaire français, c'est-à-dire tous les arguments qui montrent qu'aujourd'hui, penser qu'un Dieu créateur existe est une explication plus simple, plus rationnelle que le contraire.
Plus probable, au fond. Je me demande si vous n'auriez pas dû remplacer le mot « preuve » dans le titre « Dieu, la science, les preuves », plutôt l'appeler « Dieu, la science, les probabilités ». Au fond, j'ai l'impression qu'avec les découvertes de Copernic, Galilée, Newton, Buffon, Darwin, dont vous parliez tout à l'heure, la probabilité de l'existence de Dieu pouvait sembler se réduire. Et depuis un siècle, c'est l'inverse qui a lieu. La probabilité que Dieu a créé l'univers semble augmenter.
Alors, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est comme dans un procès. À un moment, si vous avez juste une ou deux preuves, vous avez eu mettons, on est dans Agatha Christie, voilà, il y a un mort, vous avez un ou deux éléments de preuve, et vous dites, ben voilà, la probabilité, c'est que ce soit M. X, que ce soit l'assassin. Le problème, c'est que quand les preuves augmentent, c'est-à-dire le nombre de témoins, l'ADN, les taches de sang, etc., quand le nombre de preuves augmente, on n'est plus dans les probabilités. Si vous voulez, le jury peut dire, ben là, voilà, on est dans une quasi-certitude. Donc, ce qui est justement, pour revenir au tout début de notre conversation, c'est qu'en réalité, les découvertes scientifiques du XXe siècle sont une somme d'arguments, ce qu'on appelle des preuves indépendantes, parce qu'elles viennent d'horizons différents, indépendantes, très important qu'elles soient indépendantes, et convergentes, et elles sont un peu comme avec le procès, elles arrivent, et finalement, leur somme à toutes ces preuves, au sens du dictionnaire français, eh bien, la somme de ces preuves, c'est que finalement, ça emporte la conviction. On n'est plus dans la probabilité. On peut dire aujourd'hui que ce qui est raisonnable, c'est de penser qu'il existe un Dieu créateur, on ne sait pas comment il s'appelle, ce n'est pas l'objet du livre, ça n'est pas notre propos de savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dit, etc. Nous, on veut juste savoir s'il y a un horloger derrière cette grande machine. Et nous pensons que le matérialisme aujourd'hui est une explication de l'univers qui est très irrationnel et très, très, très difficile à soutenir.
Merci Michel-Yves Bolloré. Je rappelle le titre de votre livre, Dieu, la science, l'épreuve. Il est paru aux éditions Guy Trédaniel. Il est coécrit évidemment par Olivier Bonassi. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Daniel Thompson.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Daniel Thompson.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être en direct avec moi ce matin sur Europe 1. Vous êtes la réalisatrice de La Bûche, de Fauteuil d'orchestre, de Cézanne et moi, et la co-scénariste de tous les films de Gérard Houry, votre père, mais aussi de Cousin Cousine, de Marmotte, ou de la Reine Margot. C'est vous qui présiderez la 47e cérémonie des Césars qui se déroulera vendredi prochain à l'Olympia et sera retransmise en direct sur Canal+ et sur Europe 1. Vous succédez donc à Jean Gabin, qui fut le premier président de la cérémonie en 1976. À Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Sophia Loren, Orson Welles, Alain Delon, Jane Kelly, Kirk Douglas, Isabelle Adjani, Marcello Mastroianni, etc., etc. C'est une fonction purement honorifique ou ça crée des responsabilités ?
Je crois que c'est, avec la liste que vous venez de lire, c'est très, très, très intimidant tout à coup. Vous me mettez un stress terrible là. Non, je crois que c'est à la fois évidemment une responsabilité, non, parce que bien sûr je ne m'occupe pas du déroulement de cette soirée, mais c'est tout de même bien sûr cautionner ce que représentent les Césars et ce qu'on a envie de transmettre à travers cette cérémonie de plaisir du cinéma, d'envie d'en faire, d'envie d'y aller. C'est ça la responsabilité. Et puis, le reste, bien sûr, c'est très honorifique parce qu'en effet, je reviens à cette liste. Mon Dieu, mon Dieu.
mais tout de même, Daniel, si l'un des remettants fait un striptease sur scène ou s'il y a des départs dans la salle pour protester contre le palmarès, on ne sait jamais, ça peut arriver. Vous n'allez pas vous sentir fautive ?
Non, je pense que franchement, alors là, vraiment, cette culpabilité-là, j'en veux pas. J'en veux pas, mais vous savez, chacun est libre. C'est aussi un espace de liberté. C'est un spectacle vivant, mais c'est un spectacle qui n'est pas une pièce de théâtre ou un concert où les choses sont réglées totalement d'avance. Et même d'ailleurs, même là, il peut se passer un petit peu n'importe quoi. La scène peut être envahie ou quelqu'un peut mourir. Tout peut arriver sur une scène. Donc il faut aussi laisser un espace de liberté, même si de temps en temps, cette liberté elle est un petit peu difficile à avaler, mais c'est le jeu aussi.
Daniel Thompson, vous avez une très longue habitude de la cérémonie des Césars. Vous avez été nommé 6 fois, si mes comptes sont bons. La première fois, c'était en 1976, à la toute première cérémonie pour Cousin Cousine, dont vous aviez coécrit le scénario avec le réalisateur Jean-Charles Takela. Et puis, vous avez été longtemps vice-présidente de l'Académie. Pour autant, je ne vous imagine pas blasée. C'est toujours un moment particulier, non ?
Oui, d'abord, je suis pas blasée du tout pour rien, sur rien, jamais. Donc je trouve que on s'assoit dans ce théâtre et là d'ailleurs l'Olympia qui est un lieu particulièrement chaleureux et d'une certaine manière un peu plus cocon que certaines grandes salles où ont lieu la cérémonie, donc ça je trouve que c'est une très très bonne idée. Et puis on attend un spectacle, et on attend d'être étonné, on attend d'être charmé. Alors il y a eu dans le passé des ratages, il y en a eu de tout au long de, bien sûr, de la création des Césars. Il y a eu aussi des moments de grâce. Vous parliez de Gabin tout à l'heure. Il y a eu ce moment merveilleux avec cet échange avec Michel Morgan, ce vieux couple sur la scène, tous les deux magnifiques, qui s'étaient aimés des années et des années auparavant et qui partageaient des lunettes. C'était merveilleux. Donc on s'en souvient, ceux qui ont vu. Et d'ailleurs, il faut le revoir parce qu'on peut le revoir.
Et vous étiez dans la salle, vous, hein ?
J'étais dans la salle, absolument. C'était les premiers Césars et j'avais été invité par Georges Craven, qui était évidemment le créateur de cette de cette cérémonie qui était l'idée de faire des Oscars à la française.
Mais nombre d'habitués, même parmi les plus césarisés, m'ont dit qu'il n'y allait jamais au César sans un mélange d'excitation et d'angoisse. Un peu comme si on était invité à un anniversaire dont on est en même temps l'organisateur et qui en plus est retransmis en direct à la télé.
Bah, l'excitation et l'angoisse, c'est pour ceux qui sont nominés. Quand on va au César sans avoir été nominé, qu'on y va pour le plaisir, pour voir les amis, pour participer à la soirée, on est détendu, on espère simplement s'amuser, passer un bon moment. Quand on est nominé, c'est vrai qu'il y a une espèce de tension, parce que même si on est sûr de ne pas l'avoir, on se dit quand même qu'on a une chance de l'avoir, et puis même si on se dit qu'on ne sera pas déçu, on l'est quand même. C'est un petit peu compliqué pour ceux qui viennent là avec, vous savez, quelquefois des films ont 12, 13 nominations et puis se repartent sans rien. Quelquefois, il y a des surprises. C'est d'ailleurs ça qui est très vivant et qui est très passionnant dans cette soirée. C'est que ça se passe jamais complètement comme on s'y attend. Et surtout, voilà, ceux qui ont eu la chance d'avoir été choisis, parce que il faut aussi souligner qu'il y a beaucoup, beaucoup de films magnifiques qui n'ont pas été choisis par cette académie de 4300 personnes, je crois, qui sont aussi des films formidables, mais enfin qui n'ont pas trouvé la place pour se glisser parmi ce choix qui est en fait tout petit.
Est-ce que vous savez pourquoi on écrit la cérémonie des Césars ou l'Académie des Césars sans S à César, et alors qu'on met un S aux Oscars ?
Ben parce que Oscar n'existe pas alors que César existe.
Donc
César, c'est le sculpteur, et donc c'est un hommage. Et puis je pense que ce ne sont pas les Césars qui en fait parlent de la statue, ça parle de l'artiste. Et l'artiste, il s'appelait César, voilà.
Je comprends mieux. Vous avez aussi été nommé aux Oscars pour le scénario de Cousin Cousine qui avait fait un tabac aux États-Unis. Est-ce que vous aviez fait le déplacement ?
Non, j'avais eu la chance d'être choisi par Jean-Charles Takela, qui était un vieux compagnon de route de mon père, et enfin d'ailleurs jeune compagnon à l'époque, qui avait lui écrit ce scénario. Ma participation est arrivée plus tard et j'en suis très heureuse et très fière, mais c'est vraiment un scénario de Jean-Charles dans lequel moi toute jeune je suis rentrée dans cette histoire qui m'a passionnée. Et du coup, je crois que c'était, vous savez, on était un petit nombre de gens qui ont invité à faire ce grand voyage. Et donc, Jean-Charles, et je crois que c'est juste Jean-Charles et Marie-Christine Barrault qui sont partis là-bas.
Et en tant que membre de l'Académie, vous avez aussi le droit de vote. Est-ce que vous avez toujours voté pour vous quand vous étiez en lice ?
Je crois que oui. Je pense que oui. Je pense que j'ai eu cette faiblesse.
Les nommés, vous avez dû vous en apercevoir, ont rajeuni depuis quelques années dans les catégories majeures, en particulier meilleur film, meilleure réalisation, meilleure interprétation, meilleur scénario. En 2016, il y avait encore une prime pour les plus de 50 ans. Aujourd'hui, la moyenne se situe plutôt dans les 40 ans et quelques, et il y a plus de femmes. À quoi vous l'attribuez ?
Il y a un renouveau formidable dans le cinéma français. Je pense qu'on fait confiance aux jeunes plus tôt, ce qui est une bonne chose. Ne parlons même pas des femmes, évidemment, ou plutôt parlons-en, puisque c'est une foison de talents formidables dans la génération des femmes qui arrivent en même temps qu'arrive toute cette égalité enfin, non pas encore complètement atteinte, mais enfin qui commence tout de même à s'équilibrer un petit peu partout, et notamment dans le cinéma. Et donc ça c'est le résultat du fait que quand on sort de la FEMIS ou qu'on veut tout à coup présenter un scénario à un producteur, le fait qu'on soit une femme devient plutôt un atout qu'un inconvénient, ce qui a même été le cas pendant longtemps.
Merci Daniel Thompson, je vous donne donc rendez-vous, ainsi qu'à tous nos auditeurs, vendredi pour la 47e cérémonie des Césars qui sera retransmise sur Europe 1 à partir de 20h. C'est moi qui la commenterai, entouré par Catherine Schwab de Paris Match et Olivier Benkemoun de Canal+. Merci Daniel et bonne semaine.
Eh ben, j'espère qu'on passera une bonne soirée.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. rendez-vous donc vendredi à 20h pour les Césars et samedi matin pour C'est arrivé cette semaine. Dans un instant, ce sera... pas les grandes voix, j'allais me tromper. Non, ce sera le grand rendez-vous animé par Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour à vous, cher Frédéric. Notre invité pour le grand rendez-vous, c'est Éric Zemmour. Et pour l'interroger... Je serai entourée de Nicolas Barré et de Mathieu Boccoté.
Eh bien, bonne émission, Sonia.
Europe 1.